Non, non, la question est claire. C'est-à-dire, au fond, tu demandes pourquoi il y a une époque de l'année où il y a tshuva, où il y a la liturgie de tshuva. Un jour, non, il y a les 10 jours. Aseret Yom Tshuva. Ça commence à Rosh Hashanah, il y a des niveaux, pour arriver jusqu'à Yom Kippour. Il y a un verset des prophètes qui dit Dirshu Hashem Beimatseo, Kerauhu Biyoto Kao. Recherchez Dieu lorsqu'il se trouve là. Appelez-le lorsqu'il est proche. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des moments où il est loin, où il y a des moments où il n'est pas là? Qu'est-ce que veut dire le verset? Je reprends le verset. C'est un haftara des jours de jeûne. Dirshu Hashem Beimatseo, Kerauhu Biyoto Kao. Recherchez Dieu lorsqu'il est proche. Et invoquez-le lorsqu'il... Non, je dirais, lorsqu'il est présent. Et invoquez-le lorsqu'il est proche. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un rythme de nos relations avec le Créateur, la source de l'être. Il y a Karo et il y a Rachok. Il y a des situations de proximité, des situations d'éloignement. Ta question nous porte sur une analyse assez vaste, mais je vais un peu la schématiser. Nous avons deux expériences en même temps et simultanément de la relation à Dieu en tant que Créateur et source de l'être. Lorsque nous expérimentons le fait qu'il est infiniment loin de nous, c'est ce que les philosophes appellent la transcendance, alors apparaît le sentiment de la ira, qu'on traduit par la crainte. On vit la crainte lorsqu'on est en présence de quelque chose qui nous dépasse infiniment, qui est autre. C'est la dimension de transcendance. Et lorsque l'on perçoit, surtout dans l'expérience de la bénédiction, la proximité, alors ce que l'on vit, c'est l'amour. Ahava, ira. Et c'est en même temps ahava, ira qui sont les sentiments de la Emouna. Les sentiments de la Emouna authentique, c'est à la fois ahava et ira. Ahava seul, c'est pas encore la véritable dignité de relation. Non seulement avec Dieu, mais avec tout autre. J'avais dit une fois cela comme ça. Il faut se méfier des conduites de l'amour exclusif, qui n'aurait pas la dimension de respect de l'autre qui se traduit par le terme de crainte. Si j'ai ahava pour quelqu'un sans avoir ira, alors la ahava est dangereuse. De la même manière que si j'ai que ira pour quelqu'un sans avoir ahava, la ira est dangereuse. Je vais le dire de cette manière. Il y a un langage d'amour cannibale. Ça veut dire je t'aime, je te mangerai. Ça va jusque-là. Okay. Et oui, d'où ça vient ce langage-là? C'est de l'amour cannibale. Et ça veut dire qu'il y a un débordement affectif dans le sens ahava, mais il n'y a pas la relation de dignité qui s'appelle ira. On n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Il n'y a pas la réciprocité. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc. Et de la même manière, s'il n'y a que ira et pas ahava, alors la relation de respect elle-même devient dévastatrice, catastrophique. Je le respecte tellement que je ne lui parle pas. Oui, à peu près, je vous appelle. Okay. Vous savez que la problématique théologique, les trois grandes traditions religieuses, christianisme, islam et judaïsme, se distribuent assez bien dans cette montagne. Dans le christianisme, il y a un accent absolu sur l'immanence, au point que il y a perte de la notion de la transcendance. Il n'y a que Ahava, il n'y a plus Ira. Lorsque je lis les livres des mystiques chrétiens, je voudrais froisser personne, je parle en juif, okay, je suis choqué du vocabulaire employé. Okay. On parle de l'amour de Dieu, bon, vous connaissez ça, Saint Thérèse d'Avila, tout ce que vous voudrez. Okay. C'est, pour un juif, c'est choquant. Je dois dire les choses comme je les pense. C'est impur. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de ces débordements affectifs dans l'extase religieuse, mais ça reste dans la pudeur privée. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Ne trouvez pas ça chez les juifs. Okay. C'est pas juif. Et dans l'islam, il y a un accent mis sur la transcendance absolue. Le dieu de l'islam est terrifiant. D'ailleurs, le musulman aussi. c'est le dieu de la transcendance absolue. Alors, ça ne manque pas de grandeur, l'amour absolu et exclusif. Ça ne manque pas de grandeur, la crainte absolue et exclusive. Mais ce n'est pas la vraie religion. Pour le judaïsme, c'est Hakadosh Baruch Hu. Celui qui est loin, 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 Kadosh. C'est lui, Baruch, près. Hakadosh Baruch Hu. c'est lui-même. Est-ce que c'est clair ce qu'il dit ? Au point que lorsque, je pense, la théologie chrétienne a voulu aménager l'unité de la transcendance et l'immanence, il a fallu qu'elle fasse appel à des catégories théologiques différentes. C'est le Père qui est la transcendance, c'est le Fils qui est l'immanence. On tombe dans autre chose que l'enseignement de la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Okay. Bon. Et alors, et on a peur du Père. Bon, bref, c'est un autre problème. Voilà donc ce que je veux dire. C'est que et pour terminer avec cette première question, c'est que il y a, je ne me rappelle plus comment j'ai relié cette parenthèse, mais peut-être que tu te rappelles pour moi, mais je reviens à ta question. Il y a des rythmes d'éloignement et de proximité. Donc il y a des périodes d'expérience de proximité. Or, nous avons perdu cette science. Okay. Et je vous le dis, il y a beaucoup, surtout chez les adolescents, une recherche un peu de cette science, et ça fait tomber dans l'occultisme et l'astrologie. Okay. À quel moment on est prêt, à quel moment on est loin. Vous voyez ce que je veux dire, les pulsations du cœur de l'univers. Bon. Cette science a été perdue. Elle existe dans la Kabbalah. Mais comme vous savez, dans la Kabbalah, tout est nistar, tout est secret. La seule chose qu'on sait, c'est que ça existe. Ça, c'est un secret public, que la Kabbalah existe. Et alors, je dis souvent, quand vous achetez des livres de vulgarisation de la Kabbalah, je crois que c'est important d'ouvrir cette parenthèse. Sachez bien une chose, c'est que l'étude de la Kabbalah implique un secret d'initiation. Alors, par conséquent, de deux choses, l'une. Ou bien celui qui donne un livre de vulgarisation en disant que c'est ça vraiment les secrets de la Kabbalah. Okay. Si c'est un livre d'exposition de judaïsme pour expliquer que la Kabbalah existe, ça, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, ou bien c'est quelqu'un qui a violé son secret, alors il est suspect. Okay. Ou bien c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de serment, alors il est encore plus suspect, parce qu'il n'est pas dans le coup. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Alors, je connais des livres de vulgarisation de la Kabbalah qui sont très sérieux. Parce que c'est des livres qui s'intitulent La Kabbale ou je ne sais pas quoi. Et c'est un enseignement du judaïsme traditionnel suggérant et indiquant que la Kabbale, ça existe. Ça, c'est des livres authentiques. Est-ce que c'est clair ? Ça s'appelle La Kabbale, mais c'est pour faire savoir que ça existe. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Okay. Donc, alors, je referme la parenthèse. Mais nous avons un moyen. La mémoire historique d'Israël comme collectivité. Il y a eu un temps de dévoilement, c'est le temps de la génération de la sortie d'Égypte. Et la génération de la sortie d'Égypte a vécu de façon dévoilée ces moments de proximité et d'éloignement. Et nous savons, par le calendrier de ce qu'a été la vie de la génération de la sortie d'Égypte, la génération du désert, quels sont les moments où Dieu est près, quels sont les moments où Dieu est loin. Et ça veut dire, en réalité, je voudrais compléter le vocabulaire, quels sont les moments où, par le fonctionnement naturel du monde, nous sommes loin ou nous sommes prêts ? Alors, nous sommes prêts à Tishri, nous sommes loin à Tisha B'Av. Ça fait partie des secrets Torah, les secrets du calendrier. Okay ? Nous savons que le 10 Tishri a eu lieu pour la première fois historiquement, de façon dévoilée, le premier pardon de l'histoire. Peut-être pour ça qu'en français on l'appelle le grand pardon, je ne sais pas. Okay. Et effectivement, c'est le 10 Tishri que la faute du vaudeur a été pardonnée. Je vous rappelle très brièvement cette mémoire historique. La faute du vaudeur a eu lieu le 17 Tammuz. Moïse est monté sur la montagne la première fois le 6 Sivan pour recevoir les tables de la loi. 40 jours après, c'est le 17 Tammuz où il y a eu la faute du vaudeur. Il a brisé les tables de la loi. Pendant 40 jours, il a prié pour que le peuple soit pas pardonné, mais comment dire, la sanction soit suspendue, ça l'article, il va recha. Et puis, pendant 40 jours, il a reçu les deuxièmes tables de la loi, et il est redescendu les données, c'était le 10 Tishri. Nous savons que historiquement, c'est un jour de proximité absolue. C'est le jour où on pardonne. Ceci dit, la réponse est que tous les jours, il y a comportement de tshuva. Pour ceux qui ont l'habitude de la liturgie juive, vous savez que tous les jours, il y a vidoul, tachanoun, les rites de kapara, etc. Tous les jours. À des niveaux différents, Rosh Chodesh plus, okay, et Rosh Hashanah plus, Kippour plus. Ce sont des... C'est clair que... Bien. Eh bien, je voudrais, donc, s'il n'y a pas d'autres questions.
Ok.
Oui, alors ça veut dire que celui qui, connaissant, sachant, qui ne peut pas annuler dans sa mémoire le souvenir de sa faute, mais qui en a encore le remords, ça veut dire qu'il ne croit pas que Dieu s'est occupé de lui, qu'il ne croit pas que Dieu lui a pardonné, qu'il ne croit pas que Dieu existe, tout simplement. J'explique cela. Est-ce que vous sentez le lien entre la question et la réponse, Ken? Ça veut dire, il y a interdiction d'oublier ce que l'on a fait, mais il y a interdiction d'en avoir remords si on a été pardonné. Parce qu'on en a remords encore, c'est qu'on ne croit pas qu'on a été pardonné. Est-ce que c'est clair? Et alors, la conscience est intoxiquée. Il faut revenir à une virginité de la conscience. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux le fait qu'il y ait eu pardon. Parce que si on ne prend pas au sérieux, ça veut dire qu'on nie qu'il y a un Dieu qui pardonne. Au fond, c'est une position athée, c'est ça que je veux dire, j'irai jusque-là. Okay. Celui qui a encore remords d'une faute qui a été pardonnée, c'est une des conduites de l'athéisme. Ça veut dire qu'il ne croit pas qu'on puisse pardonner. Il ne croit pas que Dieu pardonne. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Oui, oui, où ça peut mener. Okay. Et alors, il se cherche des stratégies de salut en dehors de Dieu. Et c'est les religions mystiques, ce qu'on appelle les religions à sauveur. Et le sauveur n'est pas Dieu. Et comme il n'est pas Dieu, alors on dit qu'il est Dieu. Vous avez compris pourquoi? Okay. Alors, je vais finir une minute. Attendez, je vais finir sur la question et vous me poserez votre question après. Ça veut dire, voilà, il faut faire une différence entre le rappel du souvenir intellectuel, je sais que j'ai fait ça, et il y a un verset pour ça. Vehatati negdi tamid. Ma faute est toujours devant mes yeux. Mais j'en suis guéri. Mais je sais. Alors, ce fait, c'est votre question. Ma mémoire ne peut pas oublier. Bien sûr, elle n'oubliera jamais. Mais j'en suis guéri. J'essaierai d'expliquer cela comme ça. Une question de vocabulaire qu'il faut élucider en français. Il y a une différence entre le repentir et le remords. Le remords, c'est le signe de la maladie. Le repentir, c'est le signe de la guérison. D'ailleurs, le verset le dit. Veshav verafalo. Qu'il se repente, il sera guéri. Alors, tant que je suis dans l'état de remords, c'est le symptôme de la maladie. Je suis malade de la faute. Je suis dans la maladie de la faute. C'est le signe que je ne me suis pas repenti. Si j'éprouve le mal du remords. Est-ce que c'est clair? Tandis que, s'il y a repentir, alors je suis guéri du mal de la faute. Mais je sais ce que j'ai fait. Et ça, je n'oublierai jamais. Est-ce que c'est clair? Alors, ça ne s'empêche pas. Vous avez compris? Et alors, on ne peut avoir confiance que le pardon a été donné que si on sait que c'est Dieu qui a pardonné. Parce que ma conscience ne peut pas me pardonner à cause du problème de la mémoire. Est-ce que c'est clair? Si j'étais que aux prises avec ma conscience, je serais constamment empoisonné par ce fameux fruit défendu que j'ai mangé parce qu'il me plaisait. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais non, attendez, il y a une question avant, je vous en prie.
C'est l'inverse. Il y a des gens qui se font facilement bonne conscience en disant que, par exemple, je parle des Allemands, par exemple, après la guerre, qui se disent nous, on a tué, mais en fait, on peut avoir bonne conscience parce que Dieu était avec nous, il nous a pardonné. Et ils peuvent, à l'inverse, donc, se libérer la conscience.
Et vous, ça me quitte. Je ne sais pas, là vous parlez à la place des Allemands. Je ne sais pas si vous laisserez parler comme ça. Je crois que c'est beaucoup plus grave peut-être que ça. Disons, l'âme allemande vit dans un drame épouvantable parce qu'elle est incapable de demander pardon vraiment. Et elle vit son remords. Elle vit ce drame. Je ne crois pas que dans des sujets pareils, évidemment, il y a le postulat de la bonne foi minimum. Je ne crois pas qu'un Allemand de bonne foi puisse imaginer que son crime est pardonnable par des dommages de guerre ou je ne sais pas quoi. Okay. Ils savent très bien que c'est quelque chose d'impardonnable s'ils ne demandent pas pardon. Or, ils sont incapables de demander pardon, c'est ça qui est grave. Il y a des individus qui en sont capables. Mais je crois que l'identité allemande comme identité collective en est incapable. La preuve, c'est qu'elle ne l'a jamais fait. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Il y a un grand philosophe juif qui est mort il y a quelques années, qui a beaucoup étudié ce problème, c'est Vladimir Yankelevitch, et qui... je vous conseille d'ailleurs de lire ce qu'il a écrit à ce sujet. Il dit non seulement c'est impardonnable, mais ça fait partie de l'âme allemande de ne pas se repentir, de ne pas savoir se repentir. Il avait des images d'ailleurs fulgurantes. Un Allemand ne sait pas se courber. Quand il se courbe, il se casse en deux. Vous avez remarqué ça? Et il disait et il disait avec un bruit de botte que. Et il disait, ils ont une baïonnette à la place de la colonne vertébrale. J'espère que je n'ai vexé aucun Allemand dans la salle. Je veux dire, il y a ici quelque chose de grave. Le seul qu'on pourrait vexer, c'est moi, vous savez que je m'appelle Allemand. Ashkenazi, c'est bien. Il y a là un phénomène culturel extrêmement grave. On a remarqué, enfin, je cite Vladimir Yankelevitch, que la culture allemande, elle est en cela très romaine. Il y a quelque chose avec le Saint-Empire romain germanique. Elle est en cela très romaine. Ne connaît pas. C'est en plein dans notre sujet, au fond. L'ordre prime tout. C'est-à-dire, la loi prime la morale. C'est ce que j'ai cité des latins, on pourrait le mettre dans la bouche de Goethe. Ce que nous appelons la faute, le mal, pour un Allemand, du point de vue de la spécificité de la culture allemande, il me semble, c'est le désordre, tout simplement. L'ordre nouveau, le désordre nouveau, des choses comme ça. C'est pourquoi je tenais à vous dire cela. Je ne crois pas que l'Allemand, de bonne foi, se donne bonne conscience aussi facilement. C'est plus grave que ça. Ils sont malades de ce qui s'est passé. Et bon, c'est un autre sujet. Il faudrait les aider à s'en guérir. Mais il ne semble pas qu'on les aide. Il y a une complaisance de la conception du droit romain qui est propre à la civilisation occidentale, une complaisance vis-à-vis des criminels de guerre, et le pape a reçu Waldheim. Qu'est-ce que vous êtes plus? Il y a une complaisance telle qu'on ne les aide pas du tout à se guérir. C'est clair. Bien. J'ai connu personnellement des Allemands qui, à l'échelle individuelle, ont fait tshuva, sincèrement. Et d'ailleurs, ça peut vous paraître paradoxal, leur seul tshuva possible, c'est de devenir juif. Et j'ai eu à m'occuper d'un cas de ce genre, d'un des descendants, enfin une personne qui était descendante du maréchal en chef d'Hitler, von Brotschisch, pour vous dire qui il s'agit. Et vous avez entendu ces noms épouvantables, là. Eh bien, cette personne a découvert une fois cela. La seule manière d'expier et de me guérir, c'est de devenir juif. Parce que, et j'ai très bien compris ce que voulait dire cette personne, à la fois elle se punit, imaginez, une Prussienne devenant juive, elle se punit, elle se guérit, et elle expie. C'est la punition et la guérison à la fois. Elle est heureuse, comme lui, maintenant, d'ailleurs. et en plus, mariée avec un juif, qui est tout juif. Il y a des cas de ce genre. Il y a des cas de ce genre, mais c'est à l'échelle individuelle très rare. Je crois que l'âme allemande, comme dit Yankelevitch, a une difficulté à ce niveau-là et qu'il faudrait l'aider. Et alors, tu vois, on est toujours désarmé devant ces raisonnements qu'on nous tient. Par exemple, quand le pape a reçu Waldheim, l'Autriche est un pays catholique, il faut qu'on en tienne compte et donc on reçoit le nazi. Oui, ce genre de raisonnement, hein. Les pays arabes n'ont pas reconnu Israël, alors nous on ne peut pas le reconnaître parce qu'on a des minorités chrétiennes dans les pays arabes. Ce genre d'arguments insidieux, fallacieux, faux, c'est pas pour ça. Est-ce que c'est clair? Bon. Voilà, alors si vous voulez, assez rapidement, je vais arriver donc à la deuxième partie de l'analyse, c'est-à-dire les tentations de la marginalité. Alors, je pense que on pourrait l'exprimer de la manière suivante. Le signe qu'un repentir n'est pas authentique, disons, n'est pas en plénitude. En hébreu, nous disons tshuva shlema, un repentir parfait. Mais ça ne traduit pas exactement ce que signifie le mot hébreu, une tshuva shlema. C'est qu'on ne revient pas de la manière d'être que l'on avait quitté. On revient différent. Je crois qu'il y a là le piège de l'orgueil, c'est le Maharal qui a analysé cela. Je vais essayer d'expliquer cela en me branchant directement sur le problème qui me semble illustre. Ce principe que j'ai essayé de formuler ainsi, les tentations de la marginalité, sur un mouvement qui est un fait social, qui est un fait de société, qu'on doit considérer à qualité et qu'on appelle les Chozeri Bitshuva ou les Baalei Tshuva. C'est un autre sujet. C'est pas la même chose d'être Chozeri Bitshuva ou Baalei Tshuva. Baalei Tshuva, c'est au niveau du repentir par rapport à une faute ponctuelle. Chozeri Bitshuva, c'est au niveau du revenir. C'est quand l'identité tout entière était en dehors et qu'elle revient. Alors ça, c'est Chozeri Bitshuva. Baalei Tshuva, il y avait une faute. Et on est devenu, on a maîtrisé cette faute, on est devenu le maître du repentir de cette faute. Bon, c'est un autre sujet. Je le signale simplement en passant. Alors je crois qu'on ne peut pas ne pas déceler, je veux dire ça en termes de coquetterie. Une coquetterie, si vous voulez, chez les Baalei Tshuva en général, je prends donc le terme dans le sens le plus général, et encore une fois, que personne n'essaye de penser à la cousine ou au cousin, ou même à se mettre devant une glace. Quand on parle en général, typologiquement, ça concerne personne puisque ça concerne tout le monde. Donc, alors, je reviens à vous, pas de problème. Une espèce de coquetterie qui fait que on est encore marginal, on n'est pas comme les autres. On n'est pas rentré dans le rang. On était sorti du rang, on ne rentre pas dans le rang, on rentre à côté. Il y a des signes, parfois, que ça ne trompe personne, mais parfois très coquets de cette marginalité. Okay, j'ai pas la barbe au vent de la même manière que l'autre. Okay, j'ai pas les tissites au vent de la même manière que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Okay, il y a une espèce de coquetterie de la marginalité. C'est le signe que la tshuva n'est pas shlema, parce qu'il n'y a pas eu retour. Il y a eu repentir, et il y a eu revenir, mais un peu comme un revenant. Pas... en tout cas, il n'y a pas retour mamash. On reste à la porte, on reste à côté. Est-ce que je suis arrivé à exprimer cette espèce de situation existentielle qui est que, je ne sais pas comment dire, on indique qu'on n'est pas comme il faudrait, parce que on n'a pas fini le retour. Alors on indique, avec une sorte de coquetterie vestimentaire parfois, mais la plupart du temps ça dépasse la coquetterie vestimentaire, c'est une coquetterie de comportement. On appelle ça être mahmir. C'est hamour.
Vous parlez de Chozer Bitshuva, pas de Baalei Tshuva.
Oui, un Baalei Tshuva authentique, c'est clair. Il redevient comme il était. Vous vous rappelez l'analyse de tout à l'heure. Zahartila Hesen Eoraïr. Qu'est-ce que demande ce verset? Redeviens comme quand tu étais jeune. Rajeunis-toi. Est-ce que c'est clair? Non. Alors on revient, mais avec un air plus vieux que ce qu'on était. surtout en hiver, c'est plus vieux. En tout cas... Non, c'est vrai. Alors... Non, enfin, vous savez que l'automne, il fait sombre. Bon. Alors, vous voyez de quoi il s'agit. Il y a vraiment des tentations d'être marginal. Or, je crois que c'est très lié au troisième sens du mot de Tshuva. Tant que le retour n'est pas réalisé dans son sens profond, ou Tshuvato Aramata, ça veut dire qu'on a quitté l'être d'exil pour revenir, et revenir, ça veut dire revenir en Eretz Israël, alors on est encore marginal. Et j'ai remarqué, mais je crois que l'analyse est objective finalement, que ce défaut de la marginalité que j'essaie de déceler là, et le propre de juifs revenus à la Torah, mais pas à Eretz Israël. Est-ce que c'est clair? C'est encore, si vous voulez, la caractéristique de l'orgueil individuel qui ne rentre pas dans le klal. Au fond, le retour authentique, c'est de revenir au klal. Alors là, il me suffira maintenant, si c'est suffisamment clair, de vous lire le texte de la parasha de Nesem. Est-ce que c'est clair? Okay. Je crois que le signe que la Tshuva n'est pas achevée, c'est qu'on n'est pas encore sioniste. Et c'est le texte qui parle, c'est pas moi. Okay. C'est-à-dire, si quelqu'un revient à la Torah, mais pas à Eretz Israël, c'est le signe qui n'est pas encore revenu, qui n'est pas retourné. Ou Tshuvato Aramata, encore une fois, rappelez-vous du verset. Ce que je dis là peut apparaître comme idéologique, pas du tout. Okay, C'est Parshanut Pshuta. C'est ce que dit le verset, c'est ce que disent les mots. Et j'avais cité, le soir où nous avons l'étude en hébreu, un verset de Jérémie que je vais de nouveau citer, qui est le début du chapitre 4 et qui dit ceci. Premier verset du chapitre 4, Im tashuv Israël, Neum Hashem, Elai tashuv. Si tu reviens, Israël, reviens chez moi. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est vers moi que tu dois revenir. Un verset paradoxal. Hein, et si Israël fait tchouba, oui, il va revenir. Et non, c'est que Dieu a une grande expérience de Baal et tchouba. Hein, il sait très bien qu'ils peuvent aller ailleurs. En disant c'est là-bas qu'il est. Alors que c'est pas là-bas qu'il est. Parce que chez lui, c'est ici. Mais nous allons voir que c'est la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Que c'est la Torah qui le dit. Alors nous allons prendre le chapitre 5. Simplement, en transition, reprenons ce verset de Jérémie. « Im tashuv Israël, Elai tashuv. » Alors rassure-toi, c'est possible. Parce que c'est vers moi, Hachem, que tu reviens. Devant Hachem, la tchouva est possible. Et voyez donc comment les versets reprennent leur pshat simple. C'est-à-dire que le prophète savait qu'il avait exhorté même le peuple d'Israël face à cette invraisemblance, c'est possible de revenir. Pour toutes les raisons que nous avons dites. Mais là, nous abordons le point culminant. Est-ce que c'est possible de revenir en Eretz Israël? Et pendant 2000 ans, on a vécu cette tension d'invraisemblance. C'était le désir et l'exigence la plus profonde, revenir. Mais en même temps, on a vécu cet impossible. Revenir, oui, mais c'est pas possible. J'ai fait une fois. Vous connaissez le problème. Hein, et je crois que c'est ça, la tentation de la marginalité. Que je voudrais quand même ajouter un peu ce point d'analyse. L'exil, c'est la marginalité. Nous avons vécu en exil comme des êtres marginaux. Et là, on s'est tellement habitué à être marginal que même dans le retour, on reste marginal par rapport à notre propre identité. Et c'est inouï, nous sommes peut-être la seule société au monde où il y a tellement de marginaux, au nom de l'authenticité. Est-ce que vous avez remarqué que c'est très difficile de rencontrer un juif normal? Bon, c'est clair ce que je dis là. Et là, je crois que plus ils sont, les juifs, c'est mes frères, les autres citoyens, plus ils sont crispés dans le retour, et plus ils sont marginaux. Et je crois que c'est le signe, la marginalité, c'est le signe que la tchouva n'est pas shlema. J'espère avoir été suffisamment clair, je vous ai donné c'est dans la derrière. Si jamais vous rencontrez des gens de Nebrak, vous savez quoi leur dire. Okay. Pardon.
Justement, c'est vraiment méchant qui dit ça, avec des gens qui reviennent, des gens qui rencontrent un Torah, d'autres revenus en Israël. Moi, je sais qu'il y a des rabbinis, des gens comme ça qui sont encore.
Très bonne question. Seulement, je te dis. Je te dis, c'est à eux qu'il faut la poser. Cette question, il faut la poser à eux. Bon, écoutez, on est la veille de Kippour. Non, je crois que il y a des équations personnelles de, je sais pas comment dire ça en français, de prise au piège. On est, il me revient un terme de Sartre, on est englué. Okay. Je crois qu'il y a dans la galoute une fascination de l'anormalité qui a duré si longtemps qu'elle s'est fait prendre pour le normal. Je vais essayer de schématiser très clairement. Vous savez que les juifs sont d'origine hébraïque. Okay. Ça veut dire qu'en tant que juifs, pendant 2000 ans, nous avons été des hébreux anormaux. C'est clair. Okay. Bon. Alors voilà que 2000 ans après, on décide de devenir normal. Ça s'appelle sioniste. Hébreu. Et alors voilà que les juifs désignent comme anormaux d'après ceux qui sont normaux, parce que eux, comme anormaux, ils se prennent pour normaux. Est-ce que vous voyez? Bon, alors ça fait des conditionnements tels que ça atteint même les gens qui lisent la Torah. Il y a une Torah de Babel, et les gens de Babel sont capables de vous tourner à l'envers n'importe quoi, en vous démontrant que c'est le jour qui fait nuit et c'est la nuit qui fait jour. Okay. Et les rabbins de Jérusalem les ont excommuniés. Dans le Talmud de Babel, c'est cité. Okay. Excommuniés, on a dit, En lachem helek ve nachala beloke Israël. Et je ne traduis pas, c'est énorme. Okay. Et la... c'est la marginalité. Nous nous sommes tellement habitués à être marginaux des goïms que finalement on devient marginaux des juifs normaux. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis? On a une minute, j'ai pas fini. On a tellement, il faut pas faire de cas particulier. Je vous donne la typologie. Et les gens que vous connaissez, chacun se range dans un, nous y compris, se range dans un niveau quelconque, une pina quelconque de l'histoire. Ça, vous comprenez. Il s'est produit quelque chose après 2000 ans. Et par exemple, on s'est tellement habitué pendant 2000 ans à ruser avec l'État, parce que l'État c'était la tyrannie goy, qu'on continue à Israël à ruser avec l'État, bien que ce soit un État juif. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, il y a des gens honnêtes aussi, grâce à Dieu, même en Israël. Mais c'est une attitude de prise au piège d'un conditionnement anormal qui venait de la situation anormale de l'exil. J'ai souvent répété cela, et je l'ai appris du professeur Baruch. C'est que, en principe, on peut guérir tous les malades, sauf ceux qui ne savent pas qu'ils sont malades. On ne peut pas les guérir. Lorsqu'un malade sait, admet qu'il est malade, on peut l'aider. Mais s'il ne veut pas admettre qu'il est malade, on ne peut rien pour lui. Eh bien, c'est le juif de l'exil qui est malade, mais il ne veut pas l'admettre. J'ai dit des mots peut-être un peu trop schématiques. Je crois qu'en Israël, chez les Israéliens, dans la société israélienne, il y a beaucoup de juifs d'exil, camouflés. Il y a des ghettos en Israël. Et je crois qu'en diaspora, là je commence un peu à répondre à la question qui n'a pas été dite, en diaspora, il y a de vrais hébreux déguisés en juifs. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Donc chaque cas est un cas particulier. Mais je vous désigne surtout une situation qui est celle de la marginalité qu'entraîne une tchouva non accomplie complètement. C'est celle du retour. Et je terminerai pour vous lire le texte, vous verrez à quel point c'est aveuglant de clarté. Okay. Et essayez de comprendre que nous avons été habitués par l'histoire anormale de l'Église. L'exil, c'est ça? Non, je vous garantis, je ne fais pas exprès, ça sort comme ça. À des contorsions intellectuelles et spirituelles, les juifs sont tellement glués là-dedans qu'ils ne s'en aperçoivent pas, mais je vous garantis que les goïms le sentent. Quand ça commence, le pile-poule de couper les choses en 18 pour leur faire dire le contraire de ce que ça veut dire. Vous savez, les juifs qui sont en plein là-dedans, ils ne se rendent pas compte, ils croient que c'est Torah. Mais les non-juifs, il suffit qu'ils aient la tête saine, et il y en a, grâce à Dieu, il les a créés. Okay, il les a créés sains d'esprit en tout cas. Eh bien, ils ne mangent pas cachés, c'est pas de ma faute. Mais c'est un autre problème d'ailleurs. Eh bien, ils savent très bien que c'est des contorsions. Alors vous me dites, comment se fait qu'un rabbin puisse lire un texte clair comme s'il était obscur? Eh bien, demandez-lui. Je ne peux pas vous répondre autrement. Est-ce que c'est clair? Alors je vais vous lire le texte d'ailleurs. Top. Je vais vous dire, c'est un problème, je ne m'y attendais pas à cette question-là, mais je sais que c'est un problème sous-jacent dès qu'on parle de notre problème du retour. Okay. Et je crois d'ailleurs que nous sommes dans une situation assez délicate du point de vue de la sécurité nationale du peuple juif et d'Israël, si ce fait n'est pas un jour démystifié et élucidé. La Torah contre Israël, on y est en plein. Okay. Et je crois que c'est très grave. C'est la superstition d'en arriver là, de croire que on peut opposer la Torah à Israël, alors que la Torah ne parle que d'Israël. Bon, c'est encore un autre problème. Et si vous voulez, quoi que c'est le même malgré tout. Je dis ceci, il y a dans l'attitude à piété juive un tel respect pour les rabbins, en général, ça s'appelle Emunat Hachamim, toute la foi juive dépend de cette clé-là. Celui qui n'a pas Emunat Hachamim n'est pas branché sur la révélation que Dieu nous a donnée. Parce que la révélation que Dieu nous a donnée est passée par les prophètes. La prophétie s'est tue il y a 2600 ans, et c'est les rabbins qui sont les héritiers et les interprétateurs de la prophétie. Par conséquent, on n'a pas le droit un juif traditionnel ne parle pas de Dieu s'il ne met pas ses paroles dans les paroles des rabbins. Parce qu'il n'y a que les rabbins qui savent de quoi il s'agit. Est-ce que c'est clair? Je vais vous dire une histoire juive je me rappelle pendant la guerre, alors on accusait les juifs de prendre tous les métiers. Tous les banquiers c'est des juifs, tous les épiciers c'est des juifs, et ça allait loin, tous les rabbins sont des juifs. ils prennent tous les métiers. Eh bien, je crois qu'il y a une profonde vérité, il n'y a que des juifs qui peuvent être rabbins. On croit pas que c'est un paradoxe. Et qu'est-ce que ça veut dire rabbin ? Comprendre la parole des prophètes hébreux. C'est ça le rabbin. Ok ? Bon. Et alors, en tout cas, premièrement, ça. Et alors, pourquoi j'ai parlé des rabbins ? De quoi je parlais juste avant ? Ah, Emunat Harami. Et alors, j'ai entendu d'un de mes maîtres une explication, et je crois que c'est dans le Pshat. Cet Emunat Harami, c'est premièrement la Emouna que les Hachamim sont des Hachamim. Je le dis en hébreu, mais vous comprenez ? Mais c'est Emouna de Hachamim. C'est la Emouna que les Hachamim sont Hachamim. Okay ? Alors, on peut être très respectable dans tel ou tel domaine de la Torah, et dans un domaine à côté, ben, on n'est pas compétent. Seulement, c'est de la superstition de projeter le respect que l'on doit à la figure du Rav de telle mitzvah sur telle autre mitzvah sur laquelle il ne serait pas compétent. Je dis ça gentiment, c'est pas du tout. Et alors, effectivement, quand il m'arrive d'avoir des dialogues, de moins en moins, parce que je suis interdit de séjour chez eux, je ne sais pas si vous savez ça, je me suis même laissé dire qu'on me prend pour le Satan, à Bnei Brak. Mais, et c'est vrai en plus. À Bnei Brak. Et alors, vous savez ce que ça veut dire en hébreu le Satan ? C'est l'obstacle. Okay ? L'empêcheur de tourner en rond dans les danses des derviches. En tout cas, pour revenir à notre problème, il y a ce principe de Emunat Hachamim. Et par conséquent, nous sommes en plein dans la question. Alors, je crois qu'il faut démystifier ça. Okay ? Lorsque le sionisme a apparu, a commencé à être formulée la Torah d'Eretz Israël, la Torah lue par les Hébreux et plus par les Juifs de la Gola. Chez les Juifs de la Gola, il y avait des Hébreux qui leur enseignaient comment il faut lire pour la Gola. Mais c'est très récent que nous avons la Torah d'Eretz Israël. Et alors, la plupart des rabbins de la Gola ont été contre à cause de l'apparence qu'avait le sionisme politique à son début. Et puis ils sont morts. Et leurs disciples les citent alors que l'histoire a marché. Et Emunat Hachamim fait que... Bon, le raisonnement, vous faites la suite par vous-même. Fait que si jamais... l'État d'Israël a raison du point de vue de la Torah, alors c'était les rabbins qui étaient contre, avaient tort. Or, on ne peut pas dire que les rabbins avaient tort, Emunat Hachamim. Alors on se trouve pris dans un piège qui n'a pas d'issue. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, je ne vais pas recommencer l'analyse, je crois qu'elle a été suffisamment claire. Ils sont à plaindre, ils sont vraiment à plaindre. Alors, une fois, j'ai parlé avec un d'entre eux, j'ai dit, mais vous savez que la Torah interdit de faire parler les morts. C'est interdit de faire parler les morts. Allez, faites-les parler vivants. Et nous connaissons leurs sources. Nous connaissons ce qu'ils savaient, nous avons leurs livres. Par conséquent, étant donné ce qu'ils savaient, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient ? Et pas autant où Herzl leur a fait peur. Okay ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient ? Bon, je ne voudrais pas trop abonder dans ce sujet, on a encore le texte à lire. Simplement ajouter ceci. Alors, il y en a un qui m'a répondu, mais toi aussi, tu fais parler les morts. Puisque je cite le Rav Kook. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'à un certain moment, on ne peut plus parler. C'est clair. C'est fini, on ne peut plus parler. C'est une pensée conditionnée. Et la pensée conditionnée, je vais vous dire comment les psychologues la définissent. Il y a beaucoup de rigidité, il y a beaucoup de susceptibilité et des idées fixes. Les psychologues appellent ça la paranoïa. Mais enfin, sans arriver jusque-là, il semble bien que ça cherche de ce côté-là. Okay. Ça veut dire qu'il y a une espèce de dédoublement de la personnalité du juif de la galoute qui est en train de s'hypertrophier, la Torah d'un côté, Israël de l'autre. Et je crois que nous sommes au bord d'une situation grave. J'ai lu un livre de quelqu'un, c'est le comte de Maranche, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Pardon ? Du service secret. Un grand bonhomme, quelqu'un. Bon, je ne vous dirais pas que je l'ai connu, mais je l'ai connu. Et alors, il parle de tous les pays. d'Israël, il dit qu'une phrase. On sent qu'il a dû avoir la consigne, peut-être de sa conscience, de ne pas parler d'Israël, c'est encore trop dangereux. Je dis ça en bonne part, quand même. Il ne faut pas dévoiler les secrets concernant ce que les services secrets français font pour Israël. Bon, j'en ai trop dit. Donc, alors, je reviens à Zélie. Alors, il dit, ne croyez pas qu'Israël est en danger de guerre. Il dit, Israël est en danger de paix. En danger de paix. Et... je le dirais un peu à ma manière par rapport à mon sujet, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il veut dire, c'est que ne croyez pas que les Israéliens ont peur de la guerre, ils ont peur de la paix. Parce que s'ils avaient la paix, leur vrai problème se dévoilerait. Ça, c'est moi qui ajoute. Et si on avait la paix aux frontières, il se déclencherait un culturkampf dont vous n'avez aucune idée entre les Juifs d'Israël et les Juifs de la Torah contre Israël. Est-ce que c'est clair, Juif ? Or, si je vous ai cité le Rav Kook, c'est parce qu'il y a une troisième voie d'unité. C'est Israël au nom de la Torah. Et c'est les données de notre problème. Or, comme je vous dis, puisque vous avez posé la question, je crois que le temps est arrivé de démythifier tout cela. Or, quand un rabbin sioniste parle avec un rabbin anti-sioniste, on ne peut pas se parler. Vous voyez comment ? Parce que, est-ce que c'est clair ? On ne se parle que de connaissance à connaissance. On ne veut pas se parler de passion en passion. Et eux sont passionnistes. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se dénouer. Je pense qu'on a vraiment besoin d'Eliyahu Hanavi. Okay? Parce que la Gemara dit, Eliyahu Hanavi ne vient pas pour dire ça c'est interdit, ça c'est permis. Il vient pour réconcilier les pères et les fils. Vous comprenez ce que je dis ? Il y a quelqu'un, à mon avis, qui serait capable, et encore, il faudrait qu'il soit de Nebra pour qu'il l'accepte. Bon, je referme la parenthèse. Alors voilà, il me reste quand même, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, mais rapidement parce que le temps avance.
Dans le contexte du repentir et du retour, comment se fait-il que Moshe n'ait pas réussi à enfermer ?
Parce que il était le chef de la génération du désert. Et parce que la génération du désert n'a pas mérité, alors Moïse, et c'est une grande miséricorde pour cette génération, Moïse ne reviendra qu'avec eux, que lorsqu'il sera capable de les faire entrer. Avec eux. Il est possible, je vais vous dire ça, bon, ça c'est un peu de Kabbalah, mais vraiment très pshat, il est possible, je citerai ce que dit la Gemara à ce sujet, c'est que la génération du désert a été le Gilgul de la génération du Dor HaMabul, du déluge, et qu'il est possible que, de notre temps, nous sommes le Gilgul de la génération du désert. Et que Moshe est en train de nous faire revenir. C'est très possible. Écoutez, ça c'est encore une fois une science propre à la Kabbalah, mais on ne peut pas ne pas remarquer la correspondance entre les positions des leaders juifs de la vie juive contemporaine et les personnages de la génération du désert. Il y avait Moshe et Korah. Il y avait Aaron HaKohen et Nadab Abihu. Et ils sont à la Knesset, ils sont de Nebra, ils sont ailleurs. Mais on sait où ils sont. Mais il faut les diagnostiquer. Il y a même la Shulamit. Bien. Hein? Attends, il y a quelqu'un qui avait demandé une question rapidement, vu. Pardon. Oui. Absolument.
Alors dans ce sens-là, et dans le sens où on veut se faire, la prière est acceptée, mais si elle passe par la porte de la tribu à laquelle on appartient.
Oui.
Est-ce que finalement la tchouba schéma ne sera que lorsque, à la limite, il y aura une redistribution géographique
de... Il y aura une.
Ah.
Bon, ça encore, c'est un sujet très vaste. Après le Beit Rishon, ça n'a plus force de loi, la division en tribus. Et la Gemara explique pourquoi d'ailleurs. Et maintenant, sur la question de la prière, le Hari, je citerai l'enseignement du Hari. Le Hari a enseigné chaque tribu a sa porte, des Shahar et Tfila. Mais il y a une porte pour tout le monde, et qui est le moussard du Hari, d'ailleurs. Et vous savez que le Hari a, finalement, le moussard du Hari a beaucoup imprégné énormément de communautés, même non kabbalistes, même non sfaradites. Okay, vous savez cela. De la même manière qu'il y avait la tribu de Dan qui était mincée fait comme un mahanot. Ça veut dire chaque hébreu faisait partie d'une tribu. Mais il y avait ceux qui avaient perdu leur tribu. C'est la tribu de Dan qui les prenait en charge. Donc c'est pas perdu, hein, mais c'est pas grave. En général, il faut suivre la halakha. On est du moussar de son père, et si on a perdu le moussar de son père, on est du moussar de son maître. C'est pas perdu, on s'adopte.